petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je m'appelle Étienne Gis, je suis mathématicien et l'un des deux secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences. Dans ces petites histoires de science, je voudrais vous présenter quelques morceaux choisis de science, le plus simplement possible. Je les regrouperai par série de 4 ou 5 sur des sujets voisins. Dans cette première série, je serai seul pour vous raconter des histoires et vous défier avec quelques énigmes. Par la suite, ce seront des dialogues très informels avec des scientifiques dont les parcours sont les plus variés possibles au gré de mes rencontres. Bonne écoute. George Gamow était un physicien extraordinaire. Né en 1904 à Odessa, l'un des pionniers de la mécanique quantique et de la théorie de la relativité. Il a par exemple joué un rôle crucial dans la théorie du Big Bang. En 1933, il s'enfuit de l'Union soviétique et émigre aux États-Unis l'année suivante. Après la Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup de physiciens, il se tourne vers la biologie et dès 1954, il propose une relation entre le code génétique et les protéines. Mais pour moi, il est avant tout l'auteur de merveilleux livres de sciences populaires destinés à de jeunes lecteurs. Les aventures de M. Tompkins et 1, 2, 3, l'infini ont sans aucun doute contribué à ma vocation scientifique. Un de mes jeunes collègues m'a raconté l'histoire suivante. C'était un enfant chétif. Ses parents le font examiner par un médecin qui discute avec l'enfant et qui détecte un début d'intérêt pour les sciences. Sur l'ordonnance du médecin, les parents découvrent avec stupeur un seul médicament, lire 1, 2, 3, l'infini de Gamow. Le remède a fonctionné, et mon collègue est devenu un brillant mathématicien. Dans un petit livre intitulé « Jeux mathématiques », publié avec Stern en 1959, il pose de petites énigmes. Ce qui est intéressant, c'est que ces histoires permettent de comprendre un peu mieux la physique. Je vais vous en présenter deux. Une péniche, chargée de gros blocs de pierre, flottait dans l'écluse d'un canal. Pour une raison inconnue, les personnes à bord de la péniche ont commencé à jeter les pierres par-dessus bord et ont continué jusqu'à ce que la péniche soit entièrement vide. La question est, qu'est-il arrivé au niveau d'eau dans l'écluse? Réponse. Appuyez sur la touche pause. Réfléchissez calmement avant d'écouter la réponse qui va venir tout de suite. Avez-vous suffisamment réfléchi? Allez, appuyez encore sur la touche pause et réfléchissez encore un peu. Réponse. Le niveau d'eau va baisser. Voyons. Lorsqu'on jette une pierre au fond de l'eau, elle occupe un certain volume et fait monter le niveau de l'eau. Lorsqu'on dépose une pierre sur une péniche, cette dernière s'enfonce et le niveau d'eau monte. La question est donc de savoir si le déplacement d'eau causé par la pierre est plus important quand elle est au fond ou quand elle est sur la péniche. Vous vous souvenez du principe d'Archimède, un objet qui flotte, une péniche par exemple, déplace un volume d'eau qui pèse le même poids que l'objet. Une pierre placée sur une péniche déplace donc une quantité d'eau qui a le même poids que la pierre. En revanche, une pierre qui est au fond de l'eau déplace une quantité d'eau qui a le même volume que la pierre. Comme la pierre est plus dense que l'eau, c'est pour ça qu'elle coule, le volume d'eau déplacé par une pierre est moins important quand elle est au fond. Le niveau d'eau de l'écluse a donc baissé lorsque la pierre est jetée par-dessus bord. Vous n'êtes peut-être pas très convaincu, vous emmêlez les pinceaux dans ces arguments, rassurez-vous, moi aussi. Alors, poussons à l'extrême. Les astronomes nous apprennent que certaines étoiles sont constituées de matière tellement dense qu'un centimètre cube pèse plusieurs dizaines de tonnes. Imaginez que notre péniche soit chargée de quelques centimètres cubes de cette matière. La péniche s'enfonce alors profondément et déplace un grand volume d'eau. Si on jette ces petits cubes très denses par-dessus bord, ils n'occupent presque pas de volume. Mais la péniche est alors libérée de son énorme poids et rebondit comme un bouchon. Tout se passe donc comme si nous avions retiré un gros objet qui était immergé dans l'eau. Le niveau de l'écluse baisse. Convaincu ? Passons à la deuxième énigme. Contre le vent. Un groupe d'aviateurs était assis dans une cantine d'aérodrome, sirotant du café et étudiant les dernières bandes dessinées. « Écoute, Jack, » dit l'un d'eux, « n'avais-tu pas prévu de voler vers la base X cet après-midi et d'être de retour pour le dîner ?»« J'ai changé mes plans, » dit Jack. « La base est directement à l'est d'ici. Il y a un fort vent d'est qui me ralentirait. Je préfère attendre jusqu'à demain où on prévoit un temps calme. Mais le vent ne devrait pas changer avant le coucher du soleil et sur le chemin du retour, il sera sur tes talons, il te portera. Cela signifie que tu rattraperas le temps que tu as perdu à l'aller. Tu n'as pas beaucoup d'expérience en vol, dit Jack, et tu n'as jamais étudié la théorie de la relativité. Qu'est-ce que ça a à voir avec la théorie de la relativité? Eh bien, il se trouve que c'est la base d'une expérience que Michelson a utilisée pour essayer de détecter le supposé vent d'éther causé par le mouvement de la Terre dans l'espace. Mais d'abord, réglons le problème de mon vol vers la base X. Au cas où tes mathématiques seraient un peu rouillées, je vais d'abord essayer de te l'expliquer en termes de tous les jours. Rappelle-toi simplement que la vitesse réduite au vent contraire te fait mettre plus de temps pour arriver à destination. Et qu'au contraire, le vent arrière, au retour, t'accélère et te fait mettre moins de temps pour revenir. Cela signifie que le ralentissement a lieu pendant un temps plus long et que l'accélération pendant un temps plus court. Donc la perte est plus grande que le gain. C'est simple, n'est-ce pas ? Bon, si tu n'es pas convaincu, prenons un exemple, un calcul peut-être. Supposons que le vent soit de 50 km à l'heure, que l'avion vole à 200 km à l'heure et que la distance à parcourir soit de 750 km. À l'aller, le vent réduit la vitesse de 50 km à l'heure qui devient donc 150 km à l'heure. Et l'avion mettra donc 5 heures pour parvenir à la base X. Au retour, la vitesse sera de 250 km à l'heure et le voyage ne durera plus que 3 heures. Total, 8 heures. Sans le vent, les 1500 km aller-retour seraient parcourus, toujours à 200 km à l'heure, en 7h30. Le vent a bien ralenti le voyage total. Si la vitesse du vent était seulement un peu inférieure à celle de l'avion, il faudrait des jours pour parcourir une distance aussi courte contre le vent. Bien sûr, avec le jet que je pilote, cela n'a pas beaucoup d'importance et j'ai donné cette raison pour reporter mon vol uniquement pour vous intriguer. En fait, on m'a téléphoné ce matin pour me dire que l'homme que je voulais voir là-bas n'arrivera pas avant demain. Très bien. Si tu ne pars pas, parle-moi de l'expérience de Michelson. Eh bien, c'était comme ça. Pour expliquer la façon dont la lumière voyage dans l'espace, certains scientifiques ont supposé qu'il y avait quelque chose qu'ils ont appelé éther qui remplit tout l'espace dans l'univers. Michelson s'est dit que si cet éther existait, nous devrions être capables de détecter le vent d'éther qui passe devant nous lorsque la Terre se déplace dans l'espace. La Terre tourne autour du Soleil avec une vitesse d'environ 10 km par seconde. Nous devrions donc le remarquer presque de la même façon que vous sentez le vent dans votre visage lorsque vous volez dans un cockpit ouvert. Dans son expérience, Michelson a envoyé deux faisceaux laser, l'un dans la direction du vent, hypothétique, de l'éther, et l'autre dans la direction perpendiculaire à celui-ci. Aux extrémités de leur trajet, les deux faisceaux lumineux étaient réfléchis vers la source et comparés à leur arrivée. Le faisceau voyageant avec et contre le vent d'éther devait être retardé de la même manière que mon avion l'aurait été si j'avais volé jusqu'à la base X aujourd'hui, tandis que le faisceau voyageant dans la direction perpendiculaire devait être retardé d'un temps différent. En comparant le temps d'arrivée des deux faisceaux, Michelson espérait détecter le mouvement de notre Terre à travers l'éther. Eh bien, l'a-t-il fait ? Non. Il s'est avéré que les deux faisceaux sont retournés au point d'origine simultanément, sans aucun retard. Cela a laissé les physiciens perplexes pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'Einstein explique le résultat négatif en révolutionnant les vieilles idées de l'espace et du temps dans sa célèbre théorie de la relativité. Mais je n'ai jamais pensé que mon voyage à la base X allait me faire parler d'Einstein. C'est drôle comme ce problème de voler avec et contre le vent peut tromper. La première impression est forcément que l'effet du vent s'annule.
Petite histoire de science avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.